L'Église, une esquisse de son histoire pendant 20 siècles. Les premiers siècles. Première partie. Les temps apostoliques. Premier siècle. Travaux de Paul à Éphèse. En quittant Corinthe, Paul se rendit en Asie, dans la grande ville d'Éphèse, sur l'emplacement de laquelle il n'y a plus aujourd'hui qu'un village, mais dont les ruines attestent l'ancienne splendeur. Elle était surtout célèbre, depuis longtemps, par un temple magnifique dédié à la fausse divinité Artémis ou Diane, que l'on disait déesse de la chasse et des forêts, et présidente aussi au cours de la lune. Plus de 3 siècles avant l'époque où Paul prêchait l'évangile, le temple de Diane avait été brûlé par un insensé qui voulait ainsi s'acquérir un nom illustre, mais on l'avait reconstruit avec une splendeur plus grande que la première. Les Éphésiens prétendaient que ce temple renfermait une image de la déesse qui était tombée du ciel. La superstition s'était emparée de ce fait et, en bien des lieux, au près et au loin, on vénérait la grande Diane d'Éphèse. L'amour du gain y avait aussi trouvé son compte. Nombre d'ouvriers en argenterie fabriquaient des images en argent du temple de Diane et gagnaient beaucoup en les vendant aux dévots qui y attachaient une idée superstitieuse. Quelle folie, dirons-nous ! Hélas, de nos jours, au sein de la chrétienté, nous trouvons des choses semblables dans une église qui prétend être la seule vraie et dont les temples splendides renferment une foule d'idoles. Et ce qu'il y a de plus triste et de plus affreux en même temps, c'est que ces idoles sont honorées sous les noms de la Vierge Marie ou des apôtres du Seigneur, et que souvent elles représentent de prétendus saints ou même des hommes dont l'existence est douteuse. Que penser du fait qu'en plus d'une de ces églises on montre des images de la Vierge, que l'on prétend aussi être descendue du ciel ? Voilà ce qu'est devenue sur la terre la pure et sainte assemblée de Dieu. Et de nos jours, comme au jour de Paul, combien d'artistes et d'artisans employés à la fabrication de crucifix richement ornés d'images de saints, d'objets pieux comme on les nomme. Quel profit ne tirent pas de leur vente nombre de marchands. C'est une idolâtrie plus horrible que celle des anciens temps, parce qu'elle se couvre du nom de Christ. Ah, le cœur de l'homme est resté le même, et l'exhortation du vieil apôtre Jean est toujours de saison, « Enfants, gardez-vous des idoles !» En même temps que le paganisme, il régnait à Éphèse une autre superstition, un autre mal qui se rattache au premier. On s'occupait beaucoup de magie, c'est-à-dire de pratiques par lesquelles on prétendait connaître les choses cachées de la nature et du monde invisible, deviner et prédire l'avenir. Cette science, faussement ainsi nommée, s'enseignait dans quantité de livres auxquels on attachait une grande valeur, et dont certains, très célèbres, portaient le nom d'écrits éphésiens. Ne savons-nous pas combien il y a de nos jours aussi de ces astrologues, voyantes, cartomanciennes et spirites, qui disent être en communion avec le monde invisible, avec les âmes des morts? Toutes ces choses sont formellement condamnées par la parole de Dieu, et nous ne saurions en avoir une assez grande horreur. Tel était l'état d'Éphèse lorsque Paul y vint. Il n'y séjourna pas longtemps cette fois. Il voulait se rendre à Jérusalem, mais il promit aux Juifs avec lesquels il avait discouru dans la synagogue et qui voulaient le retenir qu'il reviendrait vers eux. Il laissait cependant des disciples dans cette grande ville dans la personne d'Aquilas et Priscilla, et peut-être d'autres s'y trouvaient-ils déjà, sans que nous sachions par qui l'Évangile leur avait été apporté. Durant l'absence de Paul, il se passa à Éphèse un fait intéressant. On y voit comment le Seigneur choisissait et préparait lui-même, en employant souvent d'humbles instruments, les ouvriers qu'il envoyait ensuite travailler à son œuvre. Il vint à Éphèse un juif originaire de la grande ville d'Alexandrie en Égypte, célèbre par ses écoles de philosophie, de sciences et de littérature. ce juif nommé Apollos, avait peut-être fait des études dans sa ville natale où se trouvaient des milliers de ses coreligionnaires. Quoi qu'il en soit, c'était un homme éloquent et puissant dans les Écritures, c'est-à-dire qu'il les connaissait bien et savait exposer et appliquer avec force ce qu'elles enseignent. Les Écritures, c'était l'Ancien Testament, qui seul existait alors. Apollos avait une certaine connaissance du Seigneur Jésus, mais il n'était pas allé plus loin que ce que Jean le Baptiseur enseignait à ses disciples. Il reconnaissait donc Jésus comme le Messie, le Christ qui avait été annoncé par les prophètes, et il avait sans doute appris sa mort et sa résurrection. Mais il ignorait les grands résultats de l'ascension du Seigneur et de l'envoi de l'Esprit-Saint, les précieuses vérités qui s'y rattachent et les glorieux privilèges qui en découlent pour le croyant. L'accomplissement des promesses de Dieu à son peuple dans la personne de Jésus remplissait son cœur, de sorte qu'avec ferveur d'esprit il parlait, enseignant diligemment les choses qui concernaient Jésus, selon les lumières qu'il avait. Lorsqu'un homme est sincère devant Dieu et qu'il fait bon usage de ce qu'il a reçu, étant disposé à se laisser enseigner, Dieu ajoute à ce qu'il a déjà. Marc 4, verset 25.
Car à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a sera ôté.
C'est ce qui eut lieu pour Apollos. Comme il parlait avec hardiesse dans la synagogue, Aquilas et Priscilla l'entendirent et reconnurent bientôt ce qui lui manquait en fait de connaissance de la vérité divine. Ils le prirent chez eux et lui expliquèrent plus exactement la voie de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a opéré par Jésus pour le salut des pécheurs et pour les introduire auprès de lui dans la jouissance de la vie éternelle. L'homme savant et éloquent ne regarda pas comme au-dessous de lui d'être le disciple des humbles faiseurs de tentes. Il profita à leur école, et Dieu bénit leurs enseignements. Apollos devint un zélé serviteur de Jésus. Apollos, s'étant senti appelé à aller à Corinthe, qui était dans la province d'Achaïe, les frères d'Éphèse écrivirent aux disciples de cette contrée et les exhortèrent à le recevoir. C'était une lettre de recommandation, telle que les assemblées du Seigneur la donnent encore aujourd'hui à un frère ou une sœur qui se rendent dans une assemblée où ils sont étrangers. Ainsi se montre et se maintient la communion des saints entre eux, car ils sont membres du même corps, le corps de Christ. Ainsi est manifesté le grand fait de l'union et de la solidarité des assemblées. Apollos étant arrivé en Achaïe et étant allé à Corinthe, Dieu, dans sa grâce, se servit de lui pour faire avancer les croyants dans la connaissance de Jésus, les affermir dans la vérité et les défendre contre les raisonnements des Juifs. Avec sa grande connaissance des Écritures, il réfutait publiquement ceux-ci avec une grande force, leur démontrant, par les Écritures même, que Jésus était le Christ, le Messie promis et attendu. Apollos avait beaucoup travaillé à Corinthe. Dieu, par son moyen, y avait fait du bien aux âmes. Puis Apollos était retourné à Éphèse. Mais l'ennemi, Satan, avait semé parmi les croyants corinthiens un esprit de parti, comme nous l'avons vu. Les uns se réclamaient de Paul, les autres de l'éloquent Apollos. Aussi, quand Paul, revenu à Éphèse, le pria d'aller à Corinthe, sans doute pour être en aide aux Corinthiens dans les difficultés où se trouvait l'assemblée, Apollos refusa de s'y rendre, au moins pour le moment, craignant peut-être d'attiser l'esprit de parti par sa présence. Plus tard, nous retrouvons Apollos en Crète en compagnie de Zénas, docteur de la loi, que nous ne connaissons que par cette mention. Paul, écrivant à Tite qu'il avait laissé en Crète, lui recommande d'avoir soin de ses deux serviteurs de Dieu et de veiller à ce que rien ne leur manque. Tite 3, verset 13.
Accompagne avec soin Zénas, le docteur de la loi, et Apollos, afin que rien ne leur manque.
Là se termine dans la parole de Dieu l'histoire de l'éloquent Apollos. Il a servi dans son temps au dessein de Dieu et aura sa récompense. Mais malgré ses talents, il n'a pas, comme serviteur, la même place que Paul qui, extérieurement du moins, avait moins d'apparence. Paul revint donc plus tard à Éphèse après avoir traversé différentes provinces de l'Asie mineure, fortifiant tous les disciples par ses enseignements et ses exhortations. À son arrivée à Éphèse, il se passa un fait qui nous rappelle une vérité d'une très grande importance. L'apôtre y rencontra des disciples dont le langage, sans doute, le surprit, comme trahissant une certaine ignorance du christianisme. Il leur dit donc, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru ?» Il faut nous rappeler que le trait essentiel du christianisme, ce qu'il a inauguré après la mort et la résurrection du Sauveur et son ascension glorieuse, c'est la descente de l'Esprit Saint qu'il a envoyé du ciel pour être à jamais avec les siens. Il forme l'assemblée et y demeure. Elle est ainsi l'habitation de Dieu, et il habite aussi dans chaque croyant dont le corps est le temple du Saint-Esprit. Quiconque a entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, et qui y a cru, est scellé du Saint-Esprit de la promesse. Jean 14, verset 16.
Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement.
Éphésiens 2, verset 22.
Vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit.
1 Corinthiens 6, verset 19.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même?
Éphésiens 1, verset 13 et 14.
En qui, vous aussi, vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage, pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire.
C'est le caractère du chrétien, l'Esprit Saint habite en lui. La question de Paul revenait donc à ceci, êtes-vous vraiment des chrétiens? Les disciples furent bien étonnés en l'entendant. Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire si l'Esprit Saint est. Ils ne mettaient pas en doute l'existence du Saint-Esprit, car l'Ancien Testament en parle en maints endroits, et Jean le baptiseur dont ils étaient disciples l'avait aussi mentionné. Mais ils ignoraient ce grand fait que, le jour de la Pentecôte, l'Esprit-Saint était venu pour demeurer sur la terre dans l'Assemblée et en chaque croyant. Combien n'y a-t-il pas aujourd'hui de personnes qui professent être chrétiennes et qui ignorent ou ont oublié ou ne tiennent pas compte de cette grande vérité. C'est cet esprit qui rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, qui nous scelle pour le jour de la rédemption, qui nous fait jouir des choses divines, qui nous guide dans la vérité, et qui est notre force pour nous conduire sainement. Paul dit alors à ses disciples, « De quel baptême donc avez-vous été baptisés ? Car s'ils avaient reçu le baptême chrétien, celui qui se donne en vue de Christ et de sa mort, ils auraient eu connaissance de la venue de l'Esprit-Saint. Aussi, répondirent-ils, du baptême de Jean. Alors l'apôtre leur dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'ils crussent en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Jean le baptiseur annonçait la venue de Christ et prêchait la repentance, afin que l'on fût préparé à le recevoir. Ceux qui se repentaient étaient baptisés en vue de cela. Le baptême chrétien est la figure de la mort avec Christ. Il est le signe de l'introduction de l'assemblée chrétienne sur la terre. Il était donné aux croyants. Ses disciples, encore ignorants mais sincères, furent sans doute heureux d'entendre la bonne nouvelle du salut par la foi en Christ. Ils la reçurent et furent baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Ensuite, Paul leur imposa les mains, et l'Esprit-Saint vint sur eux. Sa présence se manifesta aussitôt, comme elle s'était montrée le jour de la Pentecôte dans les disciples, plus tard chez les Samaritains, et ensuite chez Corneille et les siens. Ils parlèrent des langues étrangères et prophétisèrent. Si les dons miraculeux, signes extérieurs de la puissance du Saint-Esprit n'existent plus, c'est toujours le privilège de chaque chrétien de posséder le Saint-Esprit dont la puissance se fait sentir dans le cœur et agit dans la vie. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui, écrivait l'apôtre Paul aux Romains. Romains 8, verset 9. Après sa rencontre avec les disciples de Jean, auxquels il avait fait connaître plus exactement la vérité chrétienne, Paul se mit à enseigner dans la synagogue. Pendant 3 mois, il parla avec hardiesse, persuadant ses auditeurs des choses du royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Ce n'est pas actuellement quelque chose de visible, comme les royaumes de la terre, mais c'est l'autorité de Dieu établie dans les cœurs de ceux qui croient à l'Évangile, à la bonne nouvelle du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de ce royaume. C'est ainsi que l'apôtre rend grâces au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens 1, versets 12 et 13. Ceux qui font partie de ce royaume ne sont pas assujettis à l'observation de cérémonies et de règles extérieures, comme c'était le cas pour les Juifs, car le royaume de Dieu est justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. Romains 14, verset 17. L'Esprit de Dieu donne aux croyants de marcher dans une vraie justice, car ils ont revêtu le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Et il remplit leur cœur de la paix de Dieu et d'une joie pure. Ce sont les avant-goûts du ciel. Un homme pécheur, dans son état naturel, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il lui faut être lavé de ses péchés par le sang du Seigneur Jésus pour avoir une nature pure et sainte comme celle de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur disait à Nicodème, « Si quelqu'un est né d'eau et de l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Paul annonça donc sans entrave pendant 3 mois dans la synagogue ce qui concerne le royaume de Dieu. Mais au bout de ce temps, l'inimitié du cœur naturel de l'homme contre Dieu se réveilla. L'apôtre rencontra de la part de plusieurs des Juifs l'opposition qu'ils avaient montrée partout. Le cœur naturel aime mieux les choses du monde que celles du royaume de Dieu, et il préfère une religion terrestre et de forme à la vérité qui découvre à l'homme son état de péché, de ruine et d'impuissance, et ne lui laisse de ressources que dans la grâce de Dieu. Ces Juifs, qui avaient entendu la bonne nouvelle et n'avaient pas cru, s'endurcissaient et se rebellaient contre Dieu. C'est ce qui arrive toujours quand on résiste à la vérité. Et non seulement ils repoussaient le salut pour eux-mêmes, mais cherchaient à en détourner d'autres en disant du mal des chrétiens devant la multitude. Que devait faire Paul devant l'opposition méchante des Juifs? Il ne pouvait rester avec eux, ni laisser les disciples parmi eux. La parole de Dieu enseigne qu'il faut se séparer du mal et des méchants. Paul se retira donc, laissant les Juifs rebelles à leur incrédulité, comme il avait dû le faire à Corinthe. Il sépara aussi d'avec eux les disciples, et, au lieu d'enseigner dans la synagogue, il continua son œuvre d'évangélisation dans l'école d'un homme nommé Tyrannus. Nous ne savons rien d'autre sur ce dernier. Peut-être était-il un disciple, en tout cas il n'était pas opposé aux chrétiens, et nul doute que ce fut pour lui une bénédiction d'avoir donné son école pour l'œuvre du Seigneur, car Dieu tient compte de tout ce qui est fait pour lui. De cette manière, l'assemblée à Éphèse fut nettement et ouvertement séparée de la synagogue et des Juifs. Et dans cette école de Tyrannus, l'apôtre, non plus seulement les jours de sabbat, mais tous les jours durant 2 ans, annonça la parole de Dieu. Quelle grande et sainte activité, n'est-ce pas? Ah, c'est que Christ était tout pour Paul. Pour lui, vivre, c'était Christ, le Fils de Dieu qu'il avait aimé, et s'était livré lui-même pour le sauver. Aussi mettait-il tout son bonheur à travailler pour ce précieux sauveur. Il ne se lassait pas, sa vie même ne lui était pas précieuse, pourvu qu'il accomplisse son service pour Jésus en proclamant l'évangile de la grâce de Dieu. Puisse-t-il en être ainsi de nous? Nous ne pouvons sans doute pas avoir le même champ de travail, mais si nous connaissons et goûtons l'amour de Jésus, s'il remplit notre cœur, nous pourrons, même dans la vie la plus humble, travailler pour le Seigneur. Une grande bénédiction fut le résultat du travail de Paul. La parole du Seigneur se répandit non seulement à Éphèse, mais dans toute la province d'Asie, et tous ceux qui y demeuraient l'entendirent, tant juifs que grecs. Et Dieu, pour confirmer la prédication de son serviteur, faisait des miracles extraordinaires par le moyen de Paul. On portait sur des infirmes des mouchoirs et des tabliers qui avaient touché son corps, et les malades étaient guéris, et les esprits malins sortaient du corps des possédés. Il se passa alors à Éphèse deux faits remarquables. L'un montrait que la puissance que Paul déployait contre les démons était bien celle de Dieu et de Jésus, et le second fait voir la puissance de la parole de Dieu sur le cœur et la conscience de ceux qui la recevaient. Il y avait des Juifs qui faisaient métier de délivrer des esprits malins ceux qui en étaient possédés. Ils usaient pour cela de certaines pratiques et de paroles magiques. Réussissaient-ils? Nous ne le savons pas. Le Seigneur Jésus parlait à ces gens-là. Lorsque, accusé par les pharisiens de chasser les démons par le prince des démons, il répondit, « Vos fils, par qui les chassent-ils ? » Matthieu 12, verset 27. À Éphèse se trouvaient sept fils d'un nommé Séva, principal sacrificateur juif, qui courait çà et là pour exercer ce métier d'exorciste ou conjureur. Ayant vu que l'apôtre chassait les démons en invoquant le nom de Jésus, ils essayèrent de faire comme lui, en disant aux possédés, « Je vous adjure par Jésus que Paul prêche. » Deux d'entre eux étant entrés dans une maison où était un démoniaque, lui parlèrent ainsi, « Mais on ne peut se servir du saint nom de Jésus comme d'une formule magique, ce serait le profaner. » C'était par la foi en Jésus, en sa puissance, que Paul et les autres apôtres accomplissaient des miracles. Aussi, l'esprit malin, par la bouche du possédé, répondit aux exorcistes, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Le démon reconnaissait l'autorité du Seigneur et la puissance qu'il donnait à son fidèle serviteur. Mais des incrédules n'avaient aucun pouvoir sur lui. Au contraire, c'est le démon qui se montre plus fort qu'eux. Avec cette vigueur qui, au temps de Jésus, faisait que nul ne pouvait dompter un démoniaque, même en le liant de chaînes, Marc 5, versets 3 et 4, l'homme possédé se jeta sur les deux exorcistes et les maltraita, de sorte qu'ils s'enfuirent de la maison nus et blessés.
Marc 5, versets 3 et 4. Qui avait sa demeure dans les sépulcres, sortant des sépulcres, le rencontra, et personne ne pouvait le lier, pas même avec des chaînes, car souvent, quand il avait été lié de fers aux pieds et de chaînes, il avait rompu les chaînes et mis les fers en pièces, et personne ne pouvait le dompter.
Que peut l'homme pécheur contre la puissance satanique? Jésus seul a pu vaincre le diable et délivrer ceux que le diable opprimait. Ce fait vint à la connaissance de tous ceux qui demeuraient à Éphèse, juifs et grecs, et ils furent saisis de crainte. Il leur était évident que c'était bien la puissance de Dieu qui agissait par le moyen de Paul. Or l'homme, en présence de Dieu, craint toujours. Mais en même temps, le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Le second fait nous montre la puissance de la parole de Dieu sur la conscience de ceux qui avaient cru et la réalité de leur foi. Plusieurs, saisis aussi par le sentiment de la présence de Dieu, n'eurent pas honte de venir confesser et déclarer quelle avait été leur vie passée lorsqu'ils vivaient loin de Dieu, assujettis au pouvoir de Satan et esclaves de leur convoitise. Ils glorifiaient ainsi le grand amour de Dieu et sa riche miséricorde qui était venue les chercher et les sauver par Christ. Plusieurs autres, qui s'étaient adonnés aux coupables pratiques de la magie, voyant bien que ce n'était que des séductions de Satan, apportèrent leurs livres qui traitaient de ces choses et les brûlèrent devant tous. Ils faisaient ainsi une confession publique de leur foi et de leur renoncement aux œuvres mauvaises. C'était une grande perte pour eux, une perte d'environ 50 000 pièces d'argent, car ces livres avaient un grand prix. Mais, ayant compris que le chrétien ne peut s'associer à rien de ce qui est de Satan, ils firent joyeusement ce sacrifice. Quelques lecteurs penseront qu'au lieu de brûler ces livres, On aurait pu les vendre et en consacrer le prix à de bonnes œuvres, par exemple à soulager les pauvres. Mais ces livres n'auraient-ils pas fait du mal à ceux qui les auraient achetés? Les vendre, c'était répandre le poison. Puisqu'ils étaient mauvais, le feu était tout ce qui leur convenait, et plût à Dieu que ce fût le sort de tous les mauvais livres. C'est avec une telle puissance, dit l'écrivain du livre des Actes, que la parole du Seigneur croissait et montrait sa force. Puisse-t-elle aussi montrer sa force sanctifiante au milieu de nous? Puissent tous ceux qui lisent ces lignes, et surtout les jeunes gens, faire une sérieuse attention à leur lecture. Il y a de nos jours une magie, une séduction de Satan bien terrible. D'innombrables livres excitent et souillent l'imagination et le cœur. Poison subtil qui perd les âmes. Dieu veuille nous en garder. Fuyons-les comme une peste. Ici se terminent les travaux de Paul à Éphèse, où fut établie une assemblée nombreuse et marchante avec le Seigneur. L'émeute populaire à Éphèse, la fraction du pain. Comme nous l'avons dit, Paul avait achevé ses travaux à Éphèse, et l'on peut dire qu'il avait terminé son ministère et son activité comme évangéliste et missionnaire. Paul ne cessa sans doute pas de travailler pour le Seigneur, et bien que nous sachions peu de choses par les Écritures des dernières années de sa vie, ni rien de sa mort, nous pouvons être sûrs que, jusqu'à son dernier jour, libre ou dans les chaînes, il glorifia le Seigneur Jésus et rendit témoignage à son nom. Mais le livre des Actes ne nous le montre plus, comme précédemment, allant de lieu en lieu évangéliser les Juifs et les païens, là où le nom du Seigneur n'était pas connu. Lorsqu'on construit un bâtiment, on commence par établir des fondations solides. L'Assemblée de Dieu est comparée à un édifice, et Paul, partout où il avait été, en avait posé le fondement, le seul vrai et solide fondement, c'est-à-dire Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, versets 10 et 11.
Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, et un autre édifie dessus, et que chacun considère comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ.
L'Église était fondée. En une quantité de lieux, des assemblées locales furent établies, et maintenant le cher serviteur de Dieu allait être appelé à glorifier son Seigneur d'une autre manière. Paul se proposait, en quittant Éphèse, de passer par la Macédoine et l'Achaïe, afin d'y visiter les assemblées. Ensuite, il voulait aller à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Ne pensons pas qu'il s'agisse ici de ce que l'on nomme ainsi maintenant. Nulle part dans le Nouveau Testament, nous ne voyons que l'Esprit-Saint ait établi des fêtes pour les chrétiens. Celles que l'on célèbre dans la chrétienté sont des institutions purement humaines. La Pentecôte, pour laquelle Paul désirait être à Jérusalem, était l'une des trois grandes fêtes juives que l'Éternel lui-même avait instituées pour rassembler son peuple autour de lui. Deutéronome 16, verset 16.
Trois fois l'an, tout mâle d'entre vous paraîtra devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, à la fête des pains sans levain, et à la fête des semaines, et à la fête des tabernacles, et on ne paraîtra pas devant l'Éternel à vide.
Aussi longtemps que le temple subsista, les Juifs célébrèrent ces fêtes, et dans ces occasions ils venaient en foule à Jérusalem. Paul, qui aimait sa nation, pensait sans doute pouvoir profiter de ce grand concours de monde pour annoncer l'Évangile à ses frères. Il avait encore une autre pensée. Après cela, disait-il en parlant de sa visite à Jérusalem, il faut que je voie Rome aussi. Il vit Rome, en effet, mais autrement qu'il ne l'avait pensé. Il y alla comme prisonnier pour le Seigneur. Un dernier fait qui se passa à Éphèse nous est encore raconté. Satan est comparé à un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre 5, verset 8.
Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer.
Il déploie une activité incessante contre les saints et contre les ouvriers du Seigneur, et s'efforce, par tous les moyens possibles, d'entraver l'œuvre de ceux-ci, et même de les faire périr, s'il le peut. C'est ce qu'il tenta à Éphèse avant le départ de Paul. Dans cette ville d'Éphèse, comme nous l'avons dit, se trouvait un magnifique temple dédié à la fausse divinité Artémis ou Diane. Nombre d'ouvriers étaient occupés à en faire des copies en argent qui se vendaient avec un grand profit. Un certain Démétrius, qui faisait le commerce de ces objets de superstition, voyant le nombre des chrétiens s'augmenter beaucoup, comprit que c'était la ruine de son industrie et de ses gains. Il assembla donc tous les artisans qui travaillaient à ces ouvrages et leur dit « Ô hommes, vous savez que notre bien-être vient de ce travail, et vous voyez et apprenez que non seulement à Éphèse, mais presque par toute l'Asie, ce Paul, usant de persuasion, a détourné une grande foule, disant que ceux-là ne sont pas des dieux qui sont faits de main. » Quel beau témoignage ce païen rendait à l'activité de Paul et au résultat de ses travaux. Démétrius ajoutait « Non seulement il y a du danger pour nous que cette partie de leur industrie ne tombe en discrédit, mais aussi que le temple de la grande déesse Diane ne soit plus rien estimé. » On voit avec quelle habileté il faisait appel à l'amour du gain et à la superstition, ces grands mobiles du cœur de l'homme. Son discours produisit son effet. La foule, en colère, se souleva en criant « Grande est la Diane des Éphésiens !» Tous se précipitèrent dans le théâtre, vaste enceinte découverte où se donnaient les jeux publics et où se tenaient les assemblées populaires. Ils entraînaient avec eux Gaius et Aristarque, compagnons de voyage de Paul. Celui-ci voulait se présenter devant le peuple, espérant sans doute profiter de la circonstance pour annoncer l'Évangile, car, ainsi qu'il le disait, sa vie ne lui était point précieuse, pourvu qu'il servît son Seigneur. Mais les disciples, craignant pour lui, ne voulurent pas le laisser aller. Quelques-uns même des magistrats, hommes riches et influents qui étaient ses amis, le firent prier de ne pas s'aventurer dans ce tumulte. Paul céda à leurs prières. Les Juifs, de leur côté, craignant d'être confondus avec les chrétiens, poussaient en avant un certain Alexandre afin qu'il parlât au peuple. Mais celui-ci, ne faisant aucune distinction entre Juifs et chrétiens, dès qu'il eut reconnu la nationalité d'Alexandre, cria plus fortement « Grande est la Diane des Éphésiens !» Durant près de 2 heures, ces cris se firent entendre dans cette assemblée tumultueuse. C'est ainsi que se soulève l'orage des passions humaines sous l'action du prince de ce monde qui conduit les hommes dans leur aveuglement pour les faire servir à ses fins. Un grand nombre de ceux qui étaient là ne savaient même pas pourquoi ils étaient assemblés. Qui peut seul calmer ces flots agités et empêcher ainsi le mal qui en serait résulté pour les disciples, et sans doute pour Paul? Dieu, qui commande aux vagues et dit à la mer « Tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas plus loin » Job 38, verset 11. Dieu à qui tout obéit, et qui tient les cœurs comme les flots dans les mains de sa puissance. Il emploie pour cela différents moyens. Cette fois, ce fut le secrétaire de la ville, l'homme d'autorité et de bon sens, duquel Dieu se servit pour calmer, par des paroles de sagesse, la foule irritée. Tout s'apaisa ainsi, et, sous l'action de Dieu qui veille sur les siens, le danger fut écarté et la tentative de Satan déjouée. Le tumulte ayant cessé, Paul, accompagné de quelques amis, partit et se rendit en Macédoine, où il fortifia les disciples par ses exhortations. Puis il vint en Grèce, où il séjourna 3 mois. De là, il voulait s'embarquer pour aller en Syrie, mais les Juifs lui ayant dressé des embûches, il retourna par la Macédoine et s'embarqua là pour gagner la Troade, contrée de l'Asie où s'élevait autrefois la fameuse ville de Troie. On voit tout ce à quoi le cher serviteur du Seigneur était exposé. Ainsi qu'il le dit, dans les périls de la part de mes compatriotes, dans les périls de la part des nations, 2 Corinthiens 11, verset 26. Il poursuivait sa course, travaillant pour Jésus qu'il aimait. Arrivés en Troade, Paul et ses compagnons y demeurèrent quelques jours. Le premier jour de la semaine était arrivé. Ce jour est celui que nous appelons le dimanche ou le jour du Seigneur. Il ne faut pas le confondre avec le jour du sabbat, qui est le septième de la semaine, et avec lequel les chrétiens n'ont rien à faire. Le sabbat est le jour que le Seigneur, mis à mort par les méchants, passa dans le tombeau. Le dimanche est le jour glorieux où il ressuscita. C'est le jour des chrétiens. Pour eux, le sabbat n'est plus. En ce premier jour de la semaine donc, les disciples de la Troade étaient rassemblés le soir dans une chambre haute, et Paul et ses amis étaient avec eux. Quel était l'objet de cette réunion? Était-ce pour être avec Paul et pour l'entendre? Non. C'était pour être tous ensemble, Paul comme les autres, avec le Seigneur, rassemblés autour de lui et pour rompre le pain. Nous savons ce que cela signifie. C'est prendre ensemble la scène ou souper du Seigneur que lui-même a institué avant sa mort. C'est manger le pain qui rappelle son corps donné pour nous et boire le vin qui nous fait souvenir de son sang versé sur la croix pour nous sauver. Et en faisant cela ensemble, les chrétiens affirment qu'ils sont rachetés par Jésus et membres de son corps qui est l'assemblée. En même temps, ils annoncent la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le Seigneur Jésus a voulu ainsi que ses bien-aimés rachetés se souviennent du grand amour dont il les a aimés et se rappellent qu'ils ont à s'aimer aussi les uns les autres. Quel heureux rassemblement! Quelle fête déjà sur la terre! Elle fait penser à ce moment bienheureux où les saints dans le ciel seront autour de l'agneau immolé et célébreront ses louanges. Paul était parmi ses disciples. C'était sans doute une joie et un bonheur pour eux de le voir et de l'entendre, mais ce n'était pas pour cela qu'ils s'étaient rassemblés. Ils étaient là, nous le répétons, lui et eux, pour être avec le Seigneur et se souvenir de lui. Et, de nos jours, quel doit être le but des chrétiens en se rassemblant le premier jour de la semaine ? N'est-ce pas comme autrefois d'être autour du Seigneur Jésus, à sa table, pour se souvenir de lui et pour adorer ensemble, par le Saint-Esprit, le Père et son Fils bien-aimé? C'est là le vrai culte. Puissions-nous le célébrer comme les chrétiens de la Troade. Les adieux de Paul à l'assemblée d'Éphèse. Bien des traits intéressants de la vie de l'apôtre Paul nous sont encore rapportés dans le livre des Actes. Mais ce n'est pas son histoire que nous avons à suivre, c'est celle de l'assemblée de Dieu que, comme évangéliste et missionnaire, il contribua si puissamment à établir et dont il fut serviteur pour l'édifier. Nous ne parlerons donc de Paul qu'en ce qui concerne l'assemblée que lui-même avait tant à cœur. Après avoir quitté la Troade, l'apôtre et ses compagnons se rendirent à Milet, ville de l'Asie mineure, à quelque distance au sud d'Éphèse. Il fit venir là les anciens de l'assemblée de cette dernière ville pour leur faire ses adieux. Et nous pouvons bien dire que les paroles qu'il leur adressa, comme derniers avertissements, sont pour toute l'assemblée de Dieu jusqu'à la fin. Combien le Seigneur est bon de les avoir donnés par son cher serviteur qui avait tellement à cœur la gloire de son Maître, le bien de l'assemblée et le salut des pécheurs. Paul avait le sentiment que son service comme évangéliste et missionnaire était à son terme. « Je m'en vais à Jérusalem, disait-il aux anciens d'Éphèse, ignorant les choses qui m'y doivent arriver, sauf que l'Esprit-Saint rend témoignage de ville en ville, me disant que des liens et de la tribulation m'attendent. Et c'est ce qu'il trouva à Jérusalem. mis en prison par suite de la haine des Juifs, puis envoyé à Césarée au gouverneur romain, après plus de 2 ans de captivité, il fut enfin conduit à Rome pour y paraître devant l'empereur. Il rendit ainsi témoignage à Christ devant les grands de la terre, mais c'était dans les liens. Des âmes furent sauvées par son ministère, tandis qu'il était en prison, témoin l'esclave Onésime. Mais ce n'était plus aller de lieu en lieu annoncer l'Évangile et établir des assemblées. L'assemblée de Dieu était fondée sur la terre, en grande partie par son travail, et elle n'avait plus qu'à croître. Ensuite, Paul ajoutait, « Je sais que vous tous, parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, vous ne verrez plus mon visage. » De cette captivité au devant de laquelle il marchait, il ne le verrait pas revenir. Il avait dit précédemment, « Il faut aussi que je voie Rome », mais ce fut comme prisonnier qu'il alla dans cette grande ville. Mais il ne se mettait en peine de rien, il ne faisait aucun cas de sa vie, pourvu qu'il achevât avec joie et sa course et le ministère qu'il avait reçu du Seigneur Jésus. Il aimait Christ, le Fils de Dieu, qui s'était donné pour lui. Tout ce qu'il désirait, c'était de le servir jusqu'à la fin. Oh, que nous fussions animés du même esprit que Paul! Sachant donc qu'il ne les verrait plus, il avait à cœur de presser les anciens, surveillants du troupeau, établis pour cela par l'Esprit Saint, de prendre soin de l'assemblée de Dieu. Combien elle est précieuse aux yeux de Dieu, cette assemblée! Paul le faisait ressortir en disant, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Dieu voulait avoir sur la terre une assemblée qui lui appartint en propre, tirée du monde, formée pour le ciel. Mais pour cela, il fallait que ceux qui la composent fussent lavés de leurs péchés. Et son propre Fils s'est offert pour accomplir cette œuvre en souffrant et mourant sur la croix. Il nous a lavés de nos péchés dans son sang. Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Apocalypse 1, verset 5, Éphésiens 5, 25. Combien cela est beau! C'est cette assemblée que Christ se présentera un jour à lui-même, dans le ciel, glorieuse, sans tache ni ride, pour être avec lui éternellement. Mais en attendant, elle chemine sur la terre, entourée d'ennemis et de dangers, comme quelqu'un qui traverse une sombre forêt où des brigands rôdent et où des bêtes féroces cherchent leur proie. L'apôtre avait soigneusement veillé sur l'assemblée, mais il allait partir, être mis en prison, bientôt quitter ce monde, et il voyait les dangers que courait cette assemblée si chère à son cœur. « Je sais, dit-il aux anciens, qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et il se lèvera d'entre vous-mêmes des hommes qui annonceront des doctrines perverses, pour attirer les disciples après eux. Il y aurait des ennemis venant du dehors, et des ennemis surgis au-dedans. Et c'est ce qui eut lieu. Il ne fallut pas longtemps après le départ de Paul pour que s'introduisissent dans l'église des faux docteurs qui la ruinèrent. Qu'y avait-il à faire? L'apôtre recommande aux surveillants de veiller comme lui-même n'avait cessé de le faire. Mais hélas, ils s'endormirent ou furent gagnés par le mal, et la conséquence fut que les loups ravagèrent le troupeau et que les mauvaises doctrines prévalurent dans l'assemblée. Elle fut ruinée. C'est ce que sa triste histoire nous apprend. Que restait-il donc? L'apôtre le dit et nous montre la ressource qui ne peut manquer et qui est pour tous les temps, c'est Dieu et sa parole. « Je vous recommande, dit Paul, à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier, et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. Et maintenant que l'assemblée sur la terre est ruinée, divisée, déchirée, c'est ce qui nous reste, Dieu et sa parole, suffisant pour nous rassembler, nous édifier, nous inspirer jusqu'au bout. Que Dieu est grand et bon. Quand, par la faute de l'homme, tout manque, lui se présente et dit, « Me voici, comptez sur moi, attachez-vous à moi seul, voici ma parole, suivez-la. » Paul, après ses exhortations et bien d'autres que nous ne mentionnons pas, parce qu'elle ne se rapporte pas aussi directement à l'assemblée, se mit à genoux et pria avec eux tous, les recommandant à son Dieu. On peut s'imaginer la douleur qui remplissait leur cœur. Tous versaient beaucoup de larmes à la pensée que c'était la dernière fois qu'ils voyaient l'apôtre bien-aimé, qui, à travers tant de peines, de travaux et de périls, leur avait apporté l'évangile de la grâce de Dieu. C'est une chose agréable au Seigneur que nous aimions ses chers serviteurs. Paul recommandait aux Thessaloniciens de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13.
Or nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent, et de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous.
Et cette exhortation nous regarde aussi. Les amis de Paul étaient affligés, surtout parce qu'ils n'avaient plus l'espérance de le revoir sur cette terre. Le Seigneur ne nous défend pas de pleurer lorsque nous quittons ceux que nous aimons. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a un lieu de rendez-vous pour tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus. C'est le ciel, la maison de son Père. Les anciens d'Éphèse et tous ceux qui ont été convertis par le moyen de Paul ont été le rejoindre dans le paradis. Ils sont là, en attendant la résurrection glorieuse. Serons-nous avec Paul et tous les saints quand Jésus reviendra? Paul n'oublia pas ses chers amis d'Éphèse. Plus tard, à Césarée, prisonnier pour le Seigneur, il leur écrivit du fond de sa prison une lettre où se trouvent, pour notre instruction, les grandes et précieuses vérités relatives à l'Assemblée. Nous ne pouvons les présenter en détail, mais nous en dirons cependant quelques mots. Comme il l'avait fait dans l'Épître aux Corinthiens, il enseigne aux Éphésiens que l'Assemblée, composée de tous les vrais croyants, depuis la descente du Saint-Esprit jusqu'à l'enlèvement des saints, est un corps dont Christ est la tête. Cela veut dire que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus et sont sauvés, lui sont unis et sont unis les uns aux autres par le Saint-Esprit, aussi étroitement que les membres d'un corps humain sont unis à la tête et les uns aux autres et forment ainsi un tout. N'est-ce pas une belle et précieuse vérité? Par l'Esprit Saint, c'est la vie même de Christ qui coule en nous d'en haut, de même que la vie circule de notre tête dans tous nos membres. Une note en bas de page. À quelque instant que ce soit sur la terre, l'ensemble des croyants est le corps dont Christ est la tête. C'est le point de vue de 1 Corinthiens 12. Au premier chapitre des Éphésiens, c'est l'ensemble de tous les croyants dans la gloire. Reprise de l'esquisse. Paul montre aussi que, dans l'assemblée, il n'y a plus de distinction de nationalité. Les Juifs n'y sont plus un peuple privilégié. Ils sont sur un même pied que les nations, ayant besoin de la même grâce et du même Sauveur. Mais c'était un mystère que les prophètes et les saints de l'Ancien Testament n'avaient pas connu. Il a été révélé par Paul, auquel Dieu l'a fait connaître. Ensuite, l'apôtre enseigne que l'assemblée est l'habitation de Dieu sur la terre par le Saint-Esprit. Avez-vous jamais pensé que Dieu eut une demeure ici-bas, non pas faite de pierres matérielles, mais composée de ceux qui appartiennent à Christ? C'est une demeure plus belle aux yeux de Dieu que le temple de Salomon dans toute sa splendeur. Chacun des vrais croyants est une des pierres de ce merveilleux édifice. Et puis, nous apprenons que cette assemblée, Christ l'a aimée et s'est livré pour elle et veut se la présenter pure, sans tache et glorieuse. Où sera-ce? Dans le ciel, lorsque seront célébrées les noces de l'agneau avec l'assemblée, son épouse. Alors, tous les habitants du ciel s'écrieront « Alléluia ! Réjouissons-nous et tressaillons de joie. Bienheureux ceux qui auront part à cette fête glorieuse. » En attendant ce moment, Christ purifie l'assemblée, il la soigne, la nourrit et la chérit. Enfin, l'apôtre exhorte les Éphésiens et tous les croyants avec eux à mener une vie sainte comme imitateurs de Dieu et ses bien-aimés enfants et comme scellés par l'Esprit Saint qui est en eux et qu'il ne faut pas attrister. Puis il leur recommande de revêtir toute l'armure de Dieu pour résister au diable. que Dieu nous donne, en lisant cette épître, de saisir les grandes et précieuses vérités qu'elle renferme et de les réaliser dans notre cœur et notre vie. Paul, prisonnier, est envoyé à Rome. Nous dirons en quelques mots ce qui arriva au grand apôtre Paul après qu'il eut fait ses adieux aux anciens de l'assemblée d'Éphèse. Cela termine la relation que l'Esprit de Dieu nous rapporte dans les Écritures et de l'histoire de l'assemblée sur la terre et de l'histoire de celui qui fut le principal instrument pour la fonder. Paul s'embarqua à Milet avec ses amis qui l'accompagnaient et, après quelques jours de navigation, aborda à la ville de Tyr, autrefois si fameuse par son commerce, ses richesses et sa puissance maritime, et dont il est déjà parlé dans le livre de Josué. Josué 19, verset 29.
Et la frontière tournait vers Rama et jusqu'à la ville forte de Tyr.
Il s'y trouvait une assemblée chrétienne, et Paul s'y arrêta 7 jours. Les disciples avertissaient Paul par l'esprit de ne pas aller à Jérusalem. Malgré cela, il continua sa route par mer et arriva à une ville nommée Ptolémaïs, où il resta 1 jour avec les frères qui y habitaient. De là, il poursuivit son voyage par terre jusqu'à Césarée. On se rappelle que c'est dans cette ville que le centurion Corneille fut converti par le ministère de l'apôtre Pierre et que fut établie la première assemblée tirée des nations. Nous ne savons pas si Corneille était encore à Césarée quand Paul y vint, mais l'apôtre y trouva un autre serviteur de Dieu dont nous avons parlé, c'est Philippe l'évangéliste. Quelle joie ce fut sans doute pour ces 2 ouvriers du Seigneur qui travaillaient et combattaient dans le même champ, de se rencontrer. Paul et ses compagnons allèrent demeurer dans cette maison chrétienne et y restèrent 2 jours. Le Seigneur donnait ainsi à son cher apôtre quelques moments de repos et de communion fraternelle avec les saints, avant les nouvelles luttes qui l'attendaient. Quel tendre soin le Seigneur prend des siens. Marc 6, verset 31.
Et il leur dit, « Venez à l'écart vous-même dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup de gens qui allaient et qui venaient, et ils n'avaient pas même le loisir de manger.
Tandis que Paul était à Césarée, un prophète nommé Agabus y vint, et, par l'Esprit Saint, annonça que les Juifs, à Jérusalem, s'empareraient de Paul et le livreraient aux nations. Entendant ces paroles, tous les disciples de Césarée et les compagnons de Paul se mirent à le supplier de ne pas aller à Jérusalem. Mais Paul leur dit, « Que faites-vous en pleurant et en brisant mon cœur? Car pour moi, je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. » C'était vrai. L'apôtre faisait volontiers le sacrifice de sa vie pour Christ. Mais ayant été averti 2 fois par l'Esprit Saint, devait-il courir au-devant de ce sort qui l'attendait? Il semble bien qu'avec tout son dévouement de cœur, Paul suivait en cela sa propre pensée. Nous apprenons ainsi comment les plus éminents serviteurs de Dieu peuvent manquer, et cela avec des motifs qui leur paraissaient légitimes. Mais le Seigneur ne laisse pas pour cela ceux dont le cœur est réellement tout à lui, quoi qu'ils puissent se tromper. Il veille sur eux et fait tourner à bien même leurs fautes. Paul partit donc et arriva à Jérusalem. Il n'y était pas depuis longtemps quand des Juifs d'Asie, venus sans doute comme lui pour la fête, l'ayant vu dans le temple, se jetèrent sur lui, ameutèrent le peuple contre lui, sous prétexte qu'il avait profané le saint lieu en y amenant des païens. Et il l'aurait mis en pièces si l'officier romain préposé pour maintenir l'ordre ne fût accouru avec des soldats et ne l'eût tiré de leurs mains. Mais en même temps, croyant avoir affaire à un malfaiteur, il donna l'ordre de le lier de 2 chaînes. Ainsi s'accomplit ce que l'Esprit Saint avait annoncé par le prophète Agabus. Paul fut conduit en prison, après avoir vainement essayé de convaincre les Juifs de la vérité de sa mission, en leur racontant sa conversion. Quelques jours plus tard, pour le soustraire aux embûches des Juifs qui voulaient le tuer, l'officier romain nommé Claude Lysias l'envoya sous bonne escorte à Césarée, au gouverneur romain Félix. Voilà Paul entre les mains des nations. Que deviendra-t-il? Le Seigneur ne laisse jamais ses serviteurs. Avant que Paul fût conduit à Césarée, au moment où ses ennemis mortels complotaient contre lui, le Seigneur, durant la nuit, vint lui-même, se tint près de son disciple et lui dit « Et bon courage, car comme tu as rendu témoignage des choses qui me regardent à Jérusalem, ainsi il faut que tu rendes témoignage aussi à Rome. » Le Seigneur avait ses desseins. Il voulait, suivant ce qu'il avait dit lors de la conversion de Paul, que celui-ci portât son nom devant les gouverneurs et les rois, et c'est ce qui arriva. C'est comme prisonnier que l'apôtre va rendre témoignage devant les grands de la terre. Le gouverneur Félix avait épousé une femme juive, et sans doute par elle avait-il quelque connaissance de la voie, c'est ainsi qu'on désignait les disciples du Seigneur. Il voulut entendre Paul sur ce qui regarde la foi en Christ. Mais le serviteur de Dieu, qui avait à cœur le salut des âmes des pécheurs, ne voulait pas satisfaire une vaine curiosité. Il s'adressait à la conscience qui, une fois réveillée, conduit le pécheur à la voie du salut, si le pécheur lui-même ne l'endurcit pas. Il parla à l'orgueilleux gouverneur romain de la justice, de la tempérance et du jugement à venir, qui attend les injustes et ceux qui satisfont les convoitises de la chair. Qu'était Félix? Sans doute, comme le grand nombre de ses contemporains, injuste et corrompu. La parole sérieuse de l'apôtre l'atteignit. La pensée d'un jugement à venir l'effraya. Mais au lieu de s'écrier « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?», il renvoya Paul en lui disant « Pour le présent, va-t'en. Quand je trouverai un moment convenable, je te ferai appeler. » Ce moment vint-il jamais? Nous ne le voyons pas. Félix aimait l'argent et la faveur des hommes. En quittant son gouvernement, après 2 ans écoulés, il laissa Paul en prison pour plaire aux Juifs, preuve qu'il avait étouffé la voix de sa conscience. Il avait manqué volontairement le moment favorable, le jour du salut, et qu'est-il devenu? Dieu le sait. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Tel est l'avertissement divin, nous invitant à ne pas remettre à demain de répondre à son appel. Le successeur de Félix, nommé Porcius Festus, voulait aussi plaire aux Juifs. Ceux-ci vinrent auprès de lui accuser le prisonnier et réclamer son jugement. Festus proposa donc à Paul, sur leur demande, de le faire conduire à Jérusalem pour y être jugé. Mais Paul connaissait trop bien les dangers qu'il courait là, au milieu de ses ennemis acharnés. Pour y échapper, il en appela, comme citoyen romain, au tribunal suprême de César, l'empereur romain. Il fut donc résolu par Festus et son conseil qu'il serait envoyé à Rome. Le gouverneur était ainsi tiré d'un grand embarras. Mais avant le départ de Paul, il se trouva que le roi juif Agrippa, avec sa femme Bérénice, vint à Césarée pour saluer Festus. Celui-ci leur parla de son étrange prisonnier. Agrippa exprima le désir d'entendre aussi cet homme qui, tout faible et chétif d'apparence, était cependant bien connu par l'œuvre que Dieu lui avait donné d'accomplir. « Demain, dit Festus au roi, tu l'entendras. » Et le lendemain, le roi et la reine étant venus en grande pompe avec Festus, les principaux officiers et les grands de la ville, le pauvre prisonnier juif lié de chaînes fut amené devant ce brillant auditoire. Quel contraste aux yeux des hommes! Mais de quel côté était la vraie grandeur? Du côté de Paul, si humble parut-il, car le Seigneur était avec lui. De l'autre, c'était le monde et sa vaine pompe avec son chef. Oui, rappelons-nous que la gloire du monde n'est rien, et que la vraie gloire, c'est d'être avec Dieu, fût-on le plus pauvre des hommes. Agrippa, ayant donné la parole à Paul, celui-ci raconta ce qu'il avait été dans sa jeunesse, la vision céleste qu'il avait eue, sa conversion et la mission qu'il avait reçue du Seigneur d'annoncer l'Évangile, afin d'ouvrir les yeux des pécheurs, pour qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés et une part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en Jésus. Ne disant rien d'autre, ajoute Paul, que ce que les prophètes et Moïse ont annoncé devoir arriver, savoir qu'il fallait que le Christ fût soumis aux souffrances et que, le premier par la résurrection des morts, il devait annoncer la lumière et au peuple et aux nations. L'incrédule païen Festus, entendant ces paroles de Paul, n'y voyait que folie. « Tu es hors de sens, Paul, s'écria-t-il. » Mais Paul répondit, « Je ne suis point hors de sens, très excellent Festus. Le roi a la connaissance de ces choses, et je parle hardiment devant lui, car je suis persuadé qu'il n'ignore rien de ces choses, car ceci n'a point été fait en secret. » Et se tournant vers le roi, il en appelle directement à lui et s'écrie, « Ô roi Agrippa, crois-tu au prophète ? Je sais que tu y crois. Quel pressant appel, quelle ferveur de cœur ! Aussi le roi se sent-il ébranlé. » L'interpellation directe et ardente de Paul lui arrache cet aveu, « Tu me persuaderas bientôt d'être chrétien. » Hélas, c'est peu, ce n'est rien que d'être à peu près persuadé. C'était la preuve qu'Agrippa résistait et ne voulait pas céder à la puissance de la vérité. Où sont maintenant ces grands de la terre? Le pauvre prisonnier, lié de chaînes, avait un trésor et un bonheur qu'eux ne connaissaient pas, et il pouvait s'écrier devant eux, « Plus à Dieu que non seulement toi, mais aussi tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, vous devinciez de toute manière tel que je suis. » Hormis ses liens, il n'enviait point leur sort, et il aurait voulu leur faire partager son bonheur, la connaissance de Christ, pour lequel il avait fait la perte de tout. Où est Paul le prisonnier? Avec Christ, attendant la résurrection de vie et de gloire. Où sont Festus l'incrédule, et Agrippa le presque persuadé? Ah, qui peut le dire? Avec qui, ô lecteur, voulez-vous avoir votre part? Paul dut donc partir pour Rome, où il devait aussi rendre témoignage devant César. Il fut remis, avec d'autres prisonniers, sous la garde d'un centurion nommé Jules. De fidèles amis continuèrent d'accompagner l'apôtre. Dieu inclina aussi le cœur du centurion envers son serviteur. Il le traita avec égard et avec bonté. Mais la navigation fut longue et périlleuse, et se termina par un naufrage près de l'île de Malte. Le navire fut perdu, mais tous les hommes furent sauvés. Dieu les avait donnés à Paul, et c'est à cause de lui qu'ils furent épargnés. Durant les jours pénibles de la tempête, l'apôtre, toujours calme et paisible, parce que le Seigneur était avec lui, avait encouragé et soutenu l'équipage. Au milieu de tous les orages et les dangers, l'enfant de Dieu peut être tranquille. Que craindrait-il? Son Père veille sur lui. Est-ce votre cas? Quand l'huile éclaire que gronde le tonnerre, pouvez-vous dire, Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons point. Psaume 46, verset 1 et 2. Les naufragés durent passer 3 mois dans l'île de Malte, en attendant le départ d'un vaisseau qui allait à Rome. Les voyages ne se faisaient pas alors aussi rapidement que de nos jours. Mais ce temps ne fut pas perdu. Paul et ses amis avaient reçu l'hospitalité chez un des principaux de l'île, nommé Publius. Le père de ce Publius était gravement malade et souffrait beaucoup. Paul pria pour lui, lui imposa les mains et le guérit. Mais dès que le bruit de ce miracle se fut répandu, tous les malades de l'île vinrent, et Dieu, par le moyen de son serviteur, les guérit aussi. Et nous ne pouvons douter que l'apôtre, en accomplissant ses guérisons, n'annonçât aussi Jésus, au nom duquel il les faisait. Ainsi, le naufrage de Paul devint une bénédiction pour les Maltais. L'Évangile leur fut annoncé. C'est ainsi qu'un chrétien fidèle, partout où il va, dans quelque circonstance que ce soit, répand la bonne odeur de Christ, comme le disait l'apôtre de lui-même. 2 Corinthiens 2, versets 14 et 15.
Or, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ, et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu, car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu, à l'égard de ceux qui sont sauvés et à l'égard de ceux qui périssent.
Enfin, Paul et ses compagnons partirent pour Rome, la grande ville qui dominait sur les rois de la terre, la capitale du vaste empire romain, établi sur des peuples et des foules et des nations et des langues. Apocalypse chapitre 17, versets 18 et 15.
Et la femme que tu as vue est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Et il me dit, les eaux que tu as vues où la prostituée est assise sont des peuples et des foules et des nations et des langues.
Dieu y avait déjà fait porter l'Évangile et une assemblée s'y était formée. Quels avaient été les instruments dont il se servit, nous l'ignorons. Mais dans sa lettre écrite aux Romains depuis Corinthe, assez longtemps auparavant, Paul mentionne un grand nombre de saints et parmi eux Aquila et Priscilla, chez lesquels se réunissait l'assemblée. Dans cette lettre, adressée à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, Paul leur disait, demandant toujours dans mes prières, si en quelque manière il me sera accordé par la volonté de Dieu d'aller vers vous, car je désire ardemment de vous voir. Maintenant, son désir allait être accompli, mais autrement qu'il ne l'avait pensé quand il écrivait sa lettre. Alors il était libre, il pensait pousser bien loin ses travaux dans l'Évangile et leur disait, je me rendrai en Espagne, je vous verrai à mon passage. Au lieu de cela, il venait comme prisonnier dans les liens pour Christ. C'est ainsi que Dieu dirige les choses autrement que nous ne le pensons. Mais tout est pour sa gloire et notre bien. Paul avait dit aux chrétiens de Rome, « Je sais qu'en allant auprès de vous, j'irai dans la plénitude de la bénédiction de Christ. Et ce ne sont pas les liens ni la prison qui empêchent de jouir pleinement de la bénédiction de Christ et d'en faire jouir les autres. » Les chrétiens de Rome, avertis de l'arrivée de Paul et de ses compagnons, vinrent à leur rencontre assez loin de la ville. Beaucoup d'entre eux, la plupart sans doute, n'avaient jamais vu le cher serviteur de Dieu, mais ils savaient combien il avait travaillé et souffert pour Christ, et leur cœur lui était attaché. Qu'il est beau de voir des hommes qui ne se sont jamais vus se reconnaître, s'aimer et s'accueillir. C'est ce qui devrait toujours avoir lieu entre chrétiens, car ils sont de la même famille, enfants du même Dieu, ayant la même vie, la vie éternelle, unis au même Sauveur par le même Esprit. Les liens qui unissent les chrétiens sont des liens d'amour et s'expriment en tout temps, en tout lieu. À ceci, disait Jésus, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Jean 13, verset 35. Paul, voyant ses chers amis venus pour le recevoir, rendit grâces à Dieu et prit courage. Après tant de dangers, il était sain et sauf à Rome. Dans son constant amour pour sa nation, il fit venir auprès de lui les principaux des Juifs, afin de leur expliquer pourquoi il avait été forcé d'en appeler à César. Mais, ajouta-t-il, je n'ai apporté aucune accusation contre ma nation. Ensuite, les ayant convoqués un autre jour, il leur annonça l'Évangile, rendant témoignage du royaume de Dieu, cherchant à les persuader des choses concernant Jésus, et par la loi de Moïse, et par les prophètes. Les uns reçurent ses paroles, les autres ne crurent pas. Paul déclare à ceux-ci, « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux nations, et eux écouteront. Ces pauvres Juifs se privaient ainsi de la bénédiction. Prenons garde de ne pas faire comme eux. » Paul avait écrit dans sa lettre aux Romains, « Je suis tout prêt à vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. » Et c'est ce qu'il fit. Quoique prisonnier et devant comparaître devant César, il jouissait d'une certaine liberté. Il loua donc un logement où, durant 2 ans entiers, sans empêchement, il annonça le royaume de Dieu et ce qui concerne le Seigneur Jésus à tous ceux qui venaient vers lui. Ainsi, la parole de Dieu n'était pas liée, et le Seigneur accorda à son serviteur, étreint par son amour, la grâce de pouvoir, même prisonnier, presser des âmes de venir au Sauveur. Et certes, son travail ne fut pas vain. Nous connaissons au moins un des fruits de sa prédication, l'esclave fugitif Onésime, qu'il a engendré dans les liens, qu'il appelle son enfant et qu'il renvoie à son maître Philémon. Colossiens 4, verset 9.
Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres.
Dans sa captivité aussi, l'apôtre, inspiré par l'Esprit-Saint, écrivit quelques-unes de ses épîtres si utiles en tout temps à l'assemblée. Telles sont l'épître aux Éphésiens, écrite sans doute de Césarée, et celle aux Philippiens, aux Colossiens et à Philémon, écrite de Rome. Qu'arriva-t-il ensuite? Nous l'ignorons. Nous savons que Paul fut mis à mort pour le nom de Jésus. Pour moi, écrivait-il plus tard à Timothée, lors de sa seconde captivité, je sers déjà de libation, et le temps de mon départ est arrivé. Quand et comment Paul mourut-il? La parole ne nous le dit pas. C'est avec la fin du livre des Actes que se termine ce que la parole de Dieu nous dit de l'histoire suivie de l'assemblée et de celui qui fut un si puissant instrument pour l'établir. Mais l'assemblée, l'Église ainsi établie, a continué sa course sur la terre. Son histoire est bien triste, car elle a été défigurée par les fautes des hommes. Sa beauté a disparu, elle n'est plus qu'une ruine. Toutefois, le Seigneur Jésus ne la laisse pas, et le temps vient où, dans le ciel, débarrassé de toute souillure, il la présentera glorieuse et l'unira à lui comme son épouse chérie. La fin des apôtres Paul et Pierre. Avant de continuer l'histoire de l'assemblée de Christ sur la terre, nous dirons encore quelques mots sur les apôtres que le Seigneur avait choisis et envoyés pour annoncer l'Évangile. Nous n'avons plus pour nous guider le récit que Dieu lui-même nous a donné par la plume de Luc dans les Actes, mais ce que nous rapportent des écrivains anciens qui, comme tous les hommes, ont pu parfois se tromper ou être mal renseignés. L'apôtre Paul avait été conduit à Rome comme prisonnier pour être jugé par l'empereur, auquel il en avait appelé. Il resta là durant 2 ans, dans une captivité relativement douce. Il demeurait, gardé par un soldat, dans un logement qu'il avait loué, recevant tous ceux qui venaient vers lui, annonçant le royaume de Dieu, et enseignant les choses qui regardent le Seigneur Jésus-Christ, avec hardiesse et sans aucun empêchement, et son ministère porta des fruits. Il était entouré de plusieurs de ses amis et compagnons d'œuvre, tels que Luc, Épaphras, Marc, Démas et d'autres. Il recevait des envoyés des assemblées lointaines, comme Épaphrodite, par exemple, venu de Philippe, pour apporter à l'apôtre les dons de la part des Philippiens, qui avaient à cœur de pourvoir aux besoins de Paul. Et il écrivait ses belles et précieuses épîtres aux Philippiens, aux Colossiens et à Philémon, lettres qui resteront pour l'instruction et l'édification de l'Église de Dieu jusqu'à la fin. Ainsi, cette captivité de l'apôtre ne ralentissait pas son activité pour le service du Seigneur. Le cœur qui aime Jésus trouve toujours le moyen de s'employer pour lui dans toutes les circonstances, que l'on soit en santé ou en maladie, libre ou captif, pauvre ou riche, jeune ou vieux. Comme Paul le disait, Christ sera magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort, car pour moi vivre, c'est Christ. Philippiens 1, versets 20 et 21. Après ces 2 années, Paul fut mis en liberté. Sans doute, les accusations portées contre lui par les Juifs ne furent-elles pas trouvées suffisantes par l'empereur pour motiver une condamnation. Déjà, le gouverneur Festus et le roi Agrippa en avaient jugé ainsi. Que fit l'apôtre une fois libre? D'après plusieurs passages de ses épîtres, on peut voir qu'il visita les assemblées en Grèce et en Asie, et l'on pense qu'il alla aussi en Espagne, comme il en avait depuis longtemps le désir. C'est pendant cette courte période de liberté qu'il écrivit sa première épître à son cher fils Timothée et celle à Tite, pour leur donner des directions sur la manière dont il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. 1 Timothée 3, verset 15. Paul retourna à Rome. Dans quelle occasion et de quelle manière, nous l'ignorons, mais ce fut pour y retrouver la captivité. Mais cette fois, ce n'était pas comme citoyen romain en ayant appelé à César qu'il était en prison. C'était comme chrétien, c'est-à-dire comme faisant partie de cette secte haïe maintenant, non seulement des Juifs, mais des païens. Aussi, sa captivité fut-elle autrement étroite et pénible que la première fois. C'est de là qu'il écrivit sa seconde lettre à Timothée, dans laquelle il lui dit « J'endure des souffrances jusqu'à être lié de chaînes comme un malfaiteur » de Timothée 2, verset 9. Être chrétien était alors un crime digne de mort, et Paul ne pouvait échapper à la condamnation. Bien qu'après une première comparution devant César, il eût été, comme il le dit, délivré de la gueule du lion, il savait que le temps de son martyre approchait. « Pour moi, écrivait-il à Timothée, je sers déjà de libation, et le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur, juste juge, me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. » De Timothée 4, versets 6 et 8. C'est là tout ce que Paul attendait désormais. Il avait aimé et servi à son Sauveur. Il allait jouir du bonheur d'être avec lui. Cette couronne de justice ne lui manquerait pas. Et vous, lecteurs, êtes-vous de ceux qui aiment et servent Jésus et qui attendent sa venue? N'aimerez-vous pas être avec Paul dans la gloire? Paul, comme citoyen romain, fut, croit-on, décapité vers l'an 67. La date de son martyre n'est pas exactement connue, non plus que les circonstances dans lesquelles il eut lieu. Nous pouvons croire que ce fut avec joie qu'il livra sa tête au bourreau, car si pour lui vivre c'était Christ, pour lui aussi mourir était un gain. Il aimait mieux être absent du corps et présent avec le Seigneur, de Corinthiens 5, verset 8. Et Pierre, que lui arriva-t-il? Nous avons encore moins de détails sur lui que sur Paul. Après l'époque où Paul vint à Jérusalem, pour que la question fût résolue si les nations devaient ou non garder la loi de Moïse, acte 15, le livre des Actes ne parle plus de Pierre. Nous savons par l'épître aux Galates qu'il alla à Antioche. Galates 2, verset 11.
Mais quand Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était condamné.
Plus tard, nous le retrouvons à Babylone, qui n'était plus la grande cité, dont l'orgueilleux Nebuchadnezzar vantait la splendeur, mais elle existait encore et renfermait une grande colonie de Juifs, parmi lesquels le christianisme avait pénétré. C'est de là que Pierre écrivit sa première épître aux chrétiens d'entre les Juifs, qui étaient dispersés dans les diverses provinces qui composent maintenant l'Asie mineure. C'était un temps de persécution et de grandes souffrances pour ses fidèles. « Bien-aimés, leur dit-il, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, mais en tant que vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, afin qu'aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom. » 1 Pierre 4, verset 12 et 13 et 16. L'apôtre encourage ses frères souffrants en leur rappelant l'exemple de Jésus qui a souffert pour nous, lui juste pour des injustes, et il les exhorte à marcher dans l'amour, l'humilité et la sainteté, en attendant la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa venue en gloire. Si nous n'avons pas à souffrir comme ces premiers chrétiens, le Seigneur nous épargnant ces épreuves, est-ce une raison pour l'aimer moins et lui être moins fidèle? Non, assurément. Écoutons ce que dit l'apôtre en parlant de Jésus, lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez, et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Chapitre 1, verset 8. Demandons au Seigneur que cela soit vrai de nous, et alors nous serons pressés d'annoncer par notre vie et nos paroles les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Chapitre 2, verset 9. On ne sait pas d'où l'apôtre Pierre écrivit sa seconde épître, mais on voit par son contenu que, de même que Paul, il s'attendait à être bientôt retiré de ce monde. Comme un berger fidèle à qui le Seigneur avait confié ses brebis, Jean 21, verset 15 à 17, il avertit encore une fois les saints.
Jean 21, verset 15 à 17. Lors donc qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit encore une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Sois berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. »
« J'estime, dit-il, qu'il est juste, tant que je suis dans cette tente, de vous réveiller en rappelant ces choses à votre mémoire, sachant que le moment de déposer ma tente s'approche rapidement, comme aussi notre Seigneur Jésus-Christ me l'a montré. Mais je m'étudierai à ce qu'après mon départ, vous puissiez aussi en tout temps vous rappeler ces choses. » 2 Pierre 1, verset 13 à 15. Et il les met en garde contre les faux docteurs et contre les incrédules et les moqueurs. Et comme l'apôtre regardait en avant vers le jour de l'avènement de Christ, de même Pierre dirige les regards des chrétiens vers le jour de Dieu, auquel la terre et les cieux passeront, où les impies tomberont sous le jugement, mais où les saints auront leur demeure sous des cieux nouveaux et sur une terre nouvelle où la justice habite. Quelle consolation pour les chrétiens persécutés, quelle espérance pour les croyants en tout temps, mais quel solennel avertissement pour les incrédules. Il paraît certain que Pierre souffrit le martyre à Rome dans les persécutions qui eurent lieu sous Néron et dont nous parlerons plus tard. Un ancien écrivain, Ambroise de Milan, raconte que les chrétiens de Rome avaient engagé Pierre à fuir de cette ville. L'apôtre se rendait à leur désir, mais comme il atteignait les portes de la ville, il rencontra le Seigneur. « Où vas-tu, Seigneur ?» lui demanda Pierre. « Je vais à Rome, répondit Jésus, pour y être crucifié de nouveau. » Pierre vit dans ses paroles un reproche et retourna sur ses pas. Cela peut avoir été une vision ou n'être qu'une tradition. Quoi qu'il en soit, nous savons que le Seigneur avait dit à Pierre, après son relèvement, « Quand tu étais jeune, tu te saignais et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te conduira où tu ne veux pas. » Et l'évangéliste ajoute, « Or Jésus dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. » Jean 21, verset 18-19. Il est généralement admis que Pierre fut crucifié. On raconte que, comme on le conduisait au supplice, il demanda comme une faveur d'être crucifié la tête en bas, ne s'estimant pas digne de souffrir de la même manière que son Seigneur, et que sa requête lui fut accordée. La date exacte de sa mort, comme celle de Paul, n'est pas connue. Ce dut être aussi vers l'an 67 ou 68. Nous dirons plus loin quelques mots sur d'autres apôtres. Nous avons maintenant à voir les premières souffrances qu'eurent à endurer d'une manière générale les chrétiens de la part des païens.